France Inter.
La puissance du végétal et des jardins nous soigne. Le parfum des jasmins, ça agit sur nos âmes et ça nous permet d'oublier toute cette tension qui caractérise notre monde.
On a tendance à l'oublier, dans ce monde si rapide, si matériel, si conflictuel, il y a des choses simples qui nous rapprochent et qui nous font du bien, à nous les humains. Les fleurs en font partie. Miracle de la nature, elles nous apaisent, nous fascinent, nous inspirent, en poésie, en musique, en bouquet. Leur symbolique est aussi puissante que leur parfum, du lys de la monarchie au coquelicot pacifiste, en passant par les œillets antifascistes. Brandir des fleurs, c'est résister. En recevoir ou en offrir, c'est faire plaisir, les regarder, les sentir, c'est du bonheur concentré dans une fleur. En France, après la Saint-Valentin, c'est pour la fête des mères qu'on en offre le plus. Près de 60 millions de tiges coupées rien que pour cette journée, 20% du chiffre d'affaires des fleuristes français. Le revers du pétale, c'est un business qui saccage la planète. 85% des fleurs coupées sont importées de l'étranger. Elles poussent sous des serres surchauffées, dopées aux engrais, et même botoxé pour tenir les trajets.
Moi, quand j'étais petite, c'était le décès de la princesse Diana, marée de plastique devant Buckingham. L'an dernier, c'était la reine d'Angleterre. Et là, en gros, c'était un bouquet de pesticides emballé dans du plastique. Et en fait, c'est ça qui m'a mordu dans le monde de la fleur. C'est de me dire, en fait, là, tu peux essayer de créer un modèle économique différent et un modèle de fonctionnement différent pour voir si tu peux changer le monde de la fleur une tige à la fois.
Interception vous emmène aujourd'hui dans le monde des fleurs. Une promenade bucolique et passionnante à Chaumont-sur-Loire, où elles font un festival, à Saffré, où celles qui sont jetées à la poubelle sont replantées, dans des jardins ouvriers de la Loire, chez des fleuristes du Morbihan, où on défend les fleurs françaises, ou encore à Paris, où on essaie de relancer une filière éthique et locale. Le pouvoir des fleurs, soigner nos âmes sans abîmer la planète, c'est un reportage de Béatrice Duguet. Première étape, chez Digny, en Indre-et-Loire, village labellisé Jardin Remarquable. Pas un village fleuri donc, mais bien un village jardin.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Parce qu'en haut, chez Flo, ne coule pas au niveau du...
Ah, parfum de glycine et de rose pour nous accueillir à Chédigny, village d'à peine 600 habitants, à une trentaine de kilomètres au sud-est de Tours. C'est le premier village labellisé tout entier jardin remarquable. C'était il y a une douzaine d'années de cela maintenant. Chédigny n'a pas un cachet particulier en termes d'architecture, hein, faut être franc. Mais à la fin des années 90, à l'occasion de travaux d'enfouissement de lignes électriques, eh bien, le maire de l'époque, Pierre Louot, a opté pour ce qu'on pourrait appeler un Big Bang, plus de camions dans le bourg, vitesse limitée à 15 km/h et surtout des plates-bandes pour remplacer les trottoirs. Ça donne aujourd'hui des fleurs à peu près partout, ça sent bon, un village qui a regagné des habitants et qui attire les touristes. Nous y sommes.
Xavier Mathias, moi je suis à l'origine maraîcher, producteur de plants, légumes et de semences. Ma spécialité c'est plutôt les plantes qui se mangent, mais je suis toujours ravi de voir des plantes qui nourrissent le regard aussi. Depuis une bonne vingtaine d'années, j'habite ici, depuis les origines du fleurissement, on peut dire. Et donc, j'ai vu le village se métamorphoser, au sens propre. Quand je parle avec des gens, tous me disent « Ah oui, oh, qu'est-ce que c'est beau, puis il est beau le village ». Il y a bien sûr quelques pierres de taille, mais c'est pas du tout un beau village. Il y a des villages beaucoup plus beaux. Le fleurissement fait complètement oublier une architecture des plus banales. Et de voir qu'un village n'est pas du tout condamné à la déshérence, mais bien au contraire, peut faire venir une multitude de gens. Tout ça avec des fleurs, mais c'est incroyable, avec des fleurs.
Est-ce que c'est reproductible, ça ?
Je ne sais pas vraiment si c'est souhaitable. Par contre, ce que je souhaite vraiment, c'est que inspirons-nous de ce qui a pu être fait là. Pas chercher à le copier, à l'imiter, à faire un copier-coller, à le reproduire ailleurs, mais à s'en inspirer dans ses grandes lignes. C'est-à-dire que on veut des rues, on ne veut pas des routes. Ben voilà, on fait tout pour que la voiture soit moins présente. Rendons la rue à ses habitants. Le gros coup de génie du village de Chédigny, c'est que c'est un village qui est vivant, c'est pas un village musée. À partir du moment où on dit attention, il n'y a plus de trottoir, et faites gaffe, hein, c'est des fleurs hein, maintenant. Hein, donc les gens, ils font des écarts et tout, et les écrasez pas. Hein. C'est pas un trottoir des piétons, une rue des voitures. C'est tout le monde a droit à l'espace public. Donc, à nous de faire attention.
Parlons de la variété de ce qu'il y a ici, Xavier Mathias, vous qui êtes un spécialiste du végétal. Vous savez à peu près combien d'espèces de fleurs il y a ici ?
Au total, je ne serais pas capable de vous répondre. Je sais qu'il y a plus de 1000 rosiers, il y a un nombre incroyable de plantes vivaces, etc. Et la caractéristique du village aussi, c'est d'être en perpétuelle évolution. On a trois roses qui portent le nom du village de Chédigny, mais il y en a une qui s'appelle Coquine de Chédigny, qui est une rose qui est arrivée spontanément. C'est le fruit d'une hybridation naturelle. Alors, on voit bien que pour qu'il y ait des végétaux spontanés, il faut qu'on laisse le village aussi avancer, évoluer. On ne peut pas avoir la maîtrise de tout.
C'est facile de comprendre pourquoi Xavier Mathias reste baba de son village, regardez. Les rosiers colonisent les façades, les glycines dégoulinent, il y a des clématites, des hortensias, là il y a des encolis. Il y a des milliers de végétaux, roses, jaunes, mauves, rouges, oranges, ça sent bon. Il n'y a pratiquement pas de voiture.
Ça marche pas. Ça se recoupe.
Non, il y a quand même la portion de l'eau, là où...
Et l'eau, tu vois jusqu'où l'eau elle va ou pas?
Ah oui, ça reste avant le rond-point, après.
Des vis pour voir s'il n'y a pas, s'il n'y a pas quelque chose. Et c'est celle-ci.
Bonjour.
Je suis Clément Barré, le responsable des espaces verts. Et nous sommes une équipe de trois agents dédiés au fleurissement du village et à l'entretien des bâtiments communaux.
Vous êtes dans les petits travaux ?
On est, on passe faire un petit coup de propre régulièrement.
C'est vous qui entretenez le village ou c'est aussi les habitants ?
Non, c'est la mairie qui entretient tout.
Alors, c'est à vous qu'on doit l'harmonie, en fait.
Exactement.
Et l'équilibre.
Exactement.
À l'année ?
Oui, toute l'année. On essaie d'avoir un fleurissement le plus longtemps possible. Donc, on passe régulièrement pour boucher les trous, remplacer les plantes à remplacer et arracher les mauvaises herbes, même s'il y en a assez peu parce que les plantations sont denses. Et puis, il y a tout un travail d'association de couleurs, de gestion des volumes, de contraste de fleurs, de formes, de feuillages, etc. Donc, c'est un vrai travail.
Vous avez un plan, par exemple, à respecter ou pas ?
Non. Alors, en fait, le fleurissement en fait, est réalisé par trame de couleurs. Donc, en fait, on a des thématiques couleurs en fonction des portions de la rue. Mais,
par exemple, la rose un peu grenade.
Là, on est sur des camaïeux de rose bleu. Voilà, on a des portions précédemment qui sont plutôt bleues, d'autres blanches.
En face, un peu jaune.
Voilà, exactement. Et voilà, c'est la seule contrainte qu'on se donne.
Qu'est-ce que vous venez d'enlever, là, par exemple ?
Là, j'éclaircis un peu des anémones vivaces, puisqu'elles sont... c'est une vivace qui prend facilement ses aises, qui est très exubérante et qui a tendance à étouffer les voisines. Donc, en fait, on enlève quelques feuilles pour que les voisines puissent survivre.
Et maintenant, je vous propose une étape dans la nouvelle boulangerie-café de la commune. Commerce qui vient de rouvrir. Nouveau propriétaire. Ben, c'est lui, là encore, par les fleurs.
Vous inquiétez pas, France Inter vient juste les embêter un petit peu.
Merci, messieurs, dames. Bonne journée. Bonne
journée.
Bonne journée.
Plus tard.
Plus tard. Oui, bah, nous, on va se revoir dans 2 ans.
Chaise ou banquette ?
Allez,
une banquette.
Allez, on prend les chaises.
Alors, dites-moi comment vous vous appelez.
Pour moi, c'est Arthur, charpentier. Et je vous présente aussi Claire Dulac.
Alors ici, on est à la Blangerie, café de Chédigny. On est arrivé du coup à la fin d'année.
et le temps de tout mettre en place, puisque du coup ici c'était vide. Et on a ouvert, voilà, en effet, voilà, le 2 mai.
On est arrivé du Haut Beaujolais, où nous avions un restaurant.
Et donc, il y a eu une petite annonce SOS Village de la commune de Chédigny pour réouvrir ce lieu qui est fermé depuis un an et demi.
Et quand on est arrivé ici, on se demandait dans quel état on allait trouver Chédigny. C'était l'automne, voilà, avec tout le végétal qui est au repos ou en fin de fleurissement. Et on a quand même eu un immense coup de cœur, voilà.
Qu'est-ce que ça fait de vivre dans un village jardin, un village des fleurs, en fait ?
Bah, c'est être dans la beauté. Puis les personnes qui s'occupent de l'entretien, ils ont travaillé leurs perspectives et leurs photos de village. Et nous, on se retrouve au milieu de cette photo. Et de la vue de ma cuisine, on a un des plus beaux rosiers grimpants du village. Et nous, avec notre glycine devant, notre petite jardinière qu'on a installée, on a l'impression d'être au milieu d'une jungle voilà, choisie.
Alors justement, vous êtes restaurateur. Les fleurs, vous les cuisinez ?
Oui. Elles ne sont pas juste là pour faire joli. On essaye aussi de travailler les fleurs pour qu'elles... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Une crème pâtissière ou une crème anglaise à la verveine. Voilà.
Une petite tartelette aux fraises avec l'hibiscus. Il y a des fleurs de sureau aussi.
Les fleurs, c'est de la délicatesse. Ça amène de la délicatesse en cuisine aussi ?
Oui, oui.
Oui, j'aimerais dire même c'est féminin. Voilà, ça apporte quelque chose de féminin ou de la part de féminité qui est en moi. En tout cas, moi, ça me touche. Voilà, ça me touche et ça. Quand on sert les assiettes, on voit bien le résultat direct d'une belle assiette présentée. Il n'y a pas besoin que ça soit raffiné pour que ça soit joli. Voilà.
Vous dites ça me touche. Qu'est-ce qui vous touche ?
Parce que ça m'oblige à prendre le temps. On met pas des pétales de fleurs dans une assiette comme on balance de la fleur de sel. Voilà. Il faut prendre la feuille délicatement et la poser là où on veut parce que sinon elle va pas s'y mettre toute seule. Donc ça me touche parce que ça m'oblige à être autrement. Moi j'aurais tendance à être un peu roboratif et la fleur m'amène à être délicat, à être sensible. Et c'est la dernière touche que je donne souvent dans l'assiette, voilà, en présentation en tout cas. Et je ne suis pas tout seul en cuisine. On fait tout à deux et ce chemin vers la délicatesse et le raffinement, Claire m'incite à ça. En fait, elle m'inspire aussi.
Dans mon quotidien, j'ai besoin de ça, en fait. Donc le jardin, là, enfin le village jardin, là, comme ça, c'est juste un pur bonheur.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que Chédigny est un village jardin tout entier. C'est ça qui est remarquable. Et son maire, élu il y a 8 ans maintenant, ne pouvait que poursuivre l'œuvre de son prédécesseur, Pierre Louot. Interview donc de monsieur le maire sous les marronniers en fleurs, ça va de soi, devant la mairie.
Oui, et puis vous prenez la déclaration à la...
Oui, oui, je l'ai suivi.
D'accord, merci.
Je travaille ici.
Ah bon ?
Monsieur le maire, bonjour.
Pascal bonjour.
Duguay.
Bonjour, Madame Duguay, oui, et nous sommes homonymes, mais pas dans la même famille, enfin on ne sait pas, peut-être, non, on ne sait pas.
Faudrait remonter nos ancêtres.
Oui, remonter peut-être très loin, oui, on ne sait pas.
Bon, en tout cas, vous êtes le maire d'un village qui est le paradis des fleurs, ou pas loin, quoi.
Oui, c'est le paradis des fleurs, c'est le paradis des roses, c'est le paradis de la végétation, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Et on contemple ça énormément, avec énormément de plaisir, ne serait-ce que aussi parce qu'il y a beaucoup d'insectes, il y a beaucoup d'oiseaux, et des couleurs chatoyantes des fleurs. Et j'ai la chance effectivement d'en être le maire depuis 2017 maintenant.
Est-ce que Chédigny fait école ?
Ah oui, ça fait plus qu'école. On a des visites régulièrement de communes, de communautés de communes, de départements, d'écoles, d'horticulture qui viennent nous rendre visite pour voir comment ça se passe, nous poser des questions, voir comment on a fait, pourquoi on est devenu comme ça. Et oui, on fait, je pense, plus qu'école même. On est un modèle.
C'est un gros budget communal ?
Oui, c'est un gros budget communal pour une petite commune comme la nôtre. On a quand même 3 jardiniers à plein temps. Et pour une petite commune de un peu plus de 500 habitants, c'est énorme. Les communes environnantes qui ont à peu près le même nombre d'habitants que nous ont un chef jardinier qui fait tout. Nous, c'est vraiment des emplois qui sont exclusivement réservés à la végétation. C'est pas les fleurs en elles-mêmes qui coûtent cher, c'est toute la main-d'œuvre qui va avec. Au niveau des salaires, on est pratiquement à un bon quart du budget, quoi.
Est-ce que d'avoir misé sur les roses, le fleurissement, ça a ramené des habitants à Chédigny ?
Je dirais pas que ça a ramené des habitants, parce que les gens achètent des bâtiments, des maisons, et ils en font du locatif touristique. On est un petit peu coincé par les logements Airbnb. Il y a des nouvelles personnes qui viennent, effectivement, mais on n'arrive pas à développer la commune de manière à gagner des habitants.
Par exemple, il y a une maison à vendre en face de la mairie. Elle a quelle chance d'avoir un habitant ou de faire un pied-à-terre ?
Ça pourrait être effectivement des jeunes, ce serait l'idéal. Il y a un tout petit peu de terrain, il y a un endroit qui est sympa. Mais j'ai eu grand peur que, à 50% de chance, ce soit oui, encore un Airbnb.
Antoine Lavoisier disait « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Dans le monde des fleurs, il y en a qui sont convaincus depuis longtemps que rien ne se gâche, rien ne se jette. C'est le cas de François Andrieux, ancien gardien d'immeuble à Nantes, récompensé en 1997 par le Prix National des Jardiniers pour avoir créé un jardin tropical au pied du bâtiment, uniquement avec des plantes récupérées dans les poubelles. Béatrice Duguay est allée le rencontrer à Saffré, en Loire-Atlantique. Il y a 25 ans, il y avait un château abandonné, muré, avec son parc en friche. Aujourd'hui, c'est une médiathèque au milieu d'un jardin, avec des fleurs que d'autres allaient jeter.
Interception sur France Inter.
Glycines, le parfum des glycines qui sentent un peu avec le vent là.
Oui.
Oui, François ?
Oui.
Où êtes-vous ? On est arrivé, ouais.
Alors, vous êtes à côté du château ?
C'est ça, on est derrière le château, entre les écuries, je pense, et le château, si
là,
c'est des écuries.
Là, j'arrive, on est juste derrière. Hop, regarde. Voilà.
Ah bah oui, voilà, coucou. Très bien, à tout de suite. Donc là, le François en question, c'est François Andrieux, qui est un homme aux mains d'or, on va dire. La surprise, c'est qu'on va découvrir un jardin. Il a participé à la création de ce jardin en récupérant des plantes. Donc il va nous expliquer tout ça. Bonjour de près.
Bonjour.
Ravi de venir en tout cas.
Ouais.
Bonjour, Jean-François, enchanté.
C'est mon voisin et puis on est à Saffré-Joly depuis le début, voilà. On prépare le jardin chaque année pour la fête, pour le mois de septembre et puis pour les gens, quoi, surtout qui se promènent, quoi. Il y a à peu près 2000 heures de bénévolat dans l'année, voilà, entre 25 et 30 personnes.
Depuis combien de temps ?
25 ans.
Parce qu'il faut expliquer, François Andrieux, que ce jardin, il n'y a pas de plantes que vous avez achetées, en fait.
C'est de la récup, hein.
Comment ça, de la récup ?
Jardin abandonné, maisons qui vont être détruites, déchetteries, tout ce que les gens nous donnent aussi ne veulent plus. Voilà, c'est que ça. Pour moi, je crois qu'une plante, c'est un partage. Quand on voit dans les déchetteries, ce que je dis aux gens, donnez plutôt. Il devrait y avoir des endroits justement où on donne les plantes. Et puis la plante qui n'est pas trop belle, je dirais, on va peut-être avoir plus d'intérêt à lui redonner la patate que plutôt une plante qu'on achète, et puis voilà, là, on va en prendre vraiment soin, quoi.
Et tout ça est parti de rien, il y a 25 ans.
Voilà, c'était une friche. Les murs étaient éboulés, et puis avec Jean Dupas et la mairie, ils ont dit « Ok, pour le projet, allez-y ». Et on a fait la première fête des plantes, on a eu 500 personnes la première année.
Mais est-ce qu'il y a une plante qui est là depuis le début ?
Le Gunera, c'est une des premières choses, le Gunera manicata, une des plus vieilles plantes qui date de la préhistoire, que j'avais récupérée dans un jardin. J'ai trouvé ça magnifique et les gens m'ont donné un bout. Et puis voilà, ça a été une des premières plantes ici, mais ça demande de l'eau énormément.
Quelle est la plante que vous aimez particulièrement, la plante, la fleur surtout ?
La fleur ? Il y a les lilas. Les lilas, je trouve ça super beau. C'est une des plantes qui apporte le début du printemps, puis la senteur de tout, quoi. C'est un peu comme le clairodendron qui commence à se mettre en feuilles. Il est en fleurs, je pense, au mois de septembre pour la fête. Et là, ça diffuse un parfum splendide.
Alors, c'est un jardin. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a des insectes, par exemple, et des petits rongeurs qu'il n'y avait pas avant ici ?
C'est tout un écosystème qui s'est créé dans le jardin. Que ce soit les orvets,
les salamandres, les taupes, on a eu les lapins. Il y a une époque, il y avait des chevreuils, il y a les crapauds, les grenouilles. Je vois les couleuvres d'Esculape au niveau du Gunera qui est là. Donc c'est tout l'écosystème du jardin, quoi. Il y a très peu de maladies dans ce jardin.
Ah, il y a les petites taupes là qui s'en donnent à cœur joie. Ah,
là c'est parti. Là. Quand on est arrivé, le château était, il n'y avait pas la médiathèque, il n'y avait personne dedans, quoi. Il était muré.
Donc ça s'est accompagné d'une rénovation du château.
Voilà. Et la médiathèque a sa baie vitrée sur le jardin, bon, c'est somptueux pour eux, quoi. Voilà, ça c'est un rosier. Bon, lui, il a pris une importance énorme, quoi.
Ah, le rosier buisson, là.
Voilà, ouais. Oui. Lui, il va être tout rouge d'ici quelques temps. Donc pour la médiathèque, c'est bien aussi. Voilà, c'est... Mais c'est un jardin, je dirais, un peu foufou d'une certaine façon. Quand il part en fleurs et tout, l'humain a mis sa petite patte. Et puis après, bah voilà, c'est que des petits coups de taille, quoi. Et c'est marrant parce que la plupart du temps, on voit des gens aussi bouquiner, méditer ou se promener en famille. C'est vraiment l'endroit où les gens, c'est devenu leur jardin public, mais associatif, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disaient « c'est un petit jardin d'Éden ». On rentre, on pose ses valises, on oublie les soucis et on découvre.
Alors il y a les gens comme nous tous qui ont un peu d'âge, qui sont contemplatifs. Les jeunes, les ados, qu'est-ce que ça leur fait d'être là ? On est souvent accro à tous à nos petits outils électroniques là.
Non, ils viennent dans le jardin, ils se posent, ils mettent de la musique, ils discutent. Voilà, et puis il y a le respect. Voilà, c'est... Je pense que le jardin... apaise les gens et puis, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Un crochet par les bords de Loire, à Amboise, sous les acacias fleuris qui sentent très bon, petite glycine à droite. Bord de Loire parce que jardin potager, et normalement dans les jardins potagers, les jardiniers plantent toujours des fleurs. Alors on va aller voir.
Bonjour monsieur. Bonjour. On travaille à France Inter et on fait un reportage autour des fleurs et du bonheur que ça nous apporte, de ce que ça veut dire dans notre vie. Vous avez un jardin ici ?
Oui.
Ouais. Comment vous vous appelez ?
Michel, j'ai 78 ans.
Est-ce qu'il y a des fleurs dans votre jardin ?
Ah ben moi, s'il n'y a pas de fleurs, je ne suis pas un jardinier. Pourquoi ? Un bon jardinier, ça se reconnaît aux fleurs qu'il y a dans le jardin, aux qualités de légumes qu'il récolte. Disons quoi, c'est vrai, quand on arrive, c'est quand même plus jolie une fleur que de l'herbe. Hein. C'est comme une femme qui a le sourire.
Il y a quoi ? C'est des arômes sur le côté, là ?
Ben oui.
Ouais.
Là, j'ai des glaïas. Là, j'ai des glaïeuls. Là-bas, j'ai des reines marguerites. J'ai des ignats qui vont pousser.
Et alors, mon papa, il appelait les œillets des poètes, il disait c'est des louises.
Oui.
C'est comme ça qu'on les appelle,
oui, aussi
ici.
Oui.
Il y en a aussi ?
Ah ben j'en ai, oui, dans mes tomates, tout. J'en ai là-bas qui lèvent.
Est-ce que ça évite les maladies ?
Bon, et ça marche. Hein. Au niveau des pucerons, les œillets d'Inde, tout ça. Ouais.
Les œillets d'Inde, on les met dans les tomates,
dans
non,
les
c'est
tomates,
ça ?
Au pied des haricots aussi, j'en mets. Ah ben c'est le bonheur, oui. Et puis bon, ben, ma femme m'a demandé des fleurs. Là, je vais encore replanter des glaïeuls pour ne pas les avoir tout en même temps.
Eh bien, on vous laisse travailler.
Eh bien, je vous remercie. Ben, bonne journée à
merci.
Vous, alors. Prenez-vous bien.
Merci beaucoup.
Allez.
Je suis une fleur. Je suis une très jolie fleur. Je suis plus jolie qu'une rose et je sens meilleur qu'un lilas. Qui suis-je ? Je suis toi. Tu es une fleur. Tu es une très jolie fleur. Tu es plus jolie qu'une rose et tu sens meilleur qu'un lilas. Qui es-tu ? Tu es nous.
Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Nous sommes des fleurs. Nous sommes de très jolies fleurs. Oui, nous sommes tous des fleurs dans le même bouquet. Des trèfles, des végétales et des orchidées.
On en a encore deux ou trois. On est dans le dernier jardin que nous allons voir ce matin avant d'aller dans les prés du Gualo et avant le déjeuner. On fera une photo des concepteurs qui sont là entre-temps. Voilà, donc je donne la parole à nos amis qui se présentent et qui expliquent comment ils ont été inspirés par le conte.
Bien sûr. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc,
moi, alors la dame que vous venez d'entendre, c'est Chantal Colleux-Dumont. C'est la directrice du domaine de Chaumont-sur-Loire, là où le Festival des Jardins a été créé en 1992 maintenant. Le parc s'étale sur 32 hectares autour du château, 3,5 rien que pour le festival. Ça draine des milliers de visiteurs. C'est le royaume des plantes et des fleurs, évidemment, de toutes sortes. Chantal Colleux-Dumont, qu'est-ce que ça sent, là ?
Je pense que nous avons quelques roses cachées ici, peut-être du chèvrefeuille. Il y a des glycines aussi. Voilà, il y a un mélange de parfums qui sont très subtils, mais qui sont très présents et qui, pour moi, sont fondamentaux. Pour moi, la fleur, c'est l'incarnation de la perfection. On regarde n'importe quelle fleur, elle a une forme géométrique, des pétales arrondis, elle a un cœur qui est toujours extrêmement varié, différent, mais je pense que depuis mon enfance, j'ai une passion pour les fleurs parce que je trouvais qu'il n'y avait rien de plus beau et malgré les années qui passent, je n'ai pas changé d'avis.
Et alors les fleurs dans votre enfance, c'était quoi ?
C'était le jardin de ma grand-mère. J'avais une grand-mère horticultrice et donc j'ai eu la chance de me promener, petite fille, 2 ans, 3 ans, dans des forêts multicolores, des œillets, des glaïeuls, toutes sortes de plantes. Et puis il y avait des fleurs dans des serres aussi, avec l'odeur très spécifique que les gens n'aiment pas en général, de la terre mouillée, ce qui est lié au pétrichor, mais qui pour moi est une odeur fondamentale.
Chantal Colleux-Dumont, vous m'avez dit, Chaumont, c'est un lieu où on répare le monde.
Oui, je crois que la puissance du végétal et des jardins nous soigne. D'ailleurs, c'est prouvé scientifiquement, nous avons des glandes quelque part cachées dans nos visages qui sont extrêmement sollicitées dès qu'on est dans une forêt, dès qu'on est dans un jardin. Toutes les tensions s'apaisent. Les gens qui arrivent à Chaumont-sur-Loire et qui ont fait une longue route ou qui peuvent être... Ils sont très très vite apaisés par le parfum des jasmins, par le souffle qu'on entend. Les brises sont là, le vert que nous apercevons, ça agit sur nos âmes et ça nous permet d'oublier toute cette tension qui caractérise notre monde. On sait que toute cette merveille va disparaître, qu'elle va mourir, qu'il n'y aura plus rien aux arbres, mais qu'elle va renaître. Et c'est ce que je trouve fabuleux quand on est sensible au cycle de la nature, c'est cette école qu'elle nous offre. Les jardins vont renaître et vont nous aider à nous guérir de nos tristesses, de nos blessures. Je pense que c'est un extraordinaire médicament, c'est un antidote, un jardin.
Quel est votre prénom, s'il vous plaît ?
Je m'appelle Mathis.
Mathis, vous êtes en visite ici, dans ce jardin de Chaumont-sur-Loire. Quel âge vous avez ?
J'en ai 17. Moi, je viens de Belgique.
De où, exactement ?
Je viens de Soigny, une ville dans la province du Hainaut.
Comment vous vous sentez, ici ?
Bah, en fait, on s'y sent bien. C'est beau et je dirais que c'est assez apaisant. Ici, je suis assez épaté de ce que les gens ont su faire, en fait. J'aime tout ce qui touche aux plantes et... C'est ce que je répète à mes parents depuis qu'on est arrivé. J'aimerais bien faire ça dans les jardins, etc.
C'est une école de lenteur, à une époque où on vit tous vite, hein, avec voilà, votre portable, le mien.
Oui, c'est vrai qu'il faut de la patience et il ne faut pas vouloir du résultat tout de suite, je pense.
Est-ce que vous avez des fleurs chez vous, régulièrement ?
Oui, on a une maison très fleurie, pour le coup, pour que ça amène un peu de gaieté chez nous, quoi.
Alors justement, est-ce que vous sauriez décrire ce que vous éprouvez devant les fleurs ?
Ben, tout comme pour ces jardins-ci, un peu de l'émerveillement, parce qu'on peut retrouver de tout, autant les formes que les couleurs. On peut jouer avec, on peut mélanger les couleurs, les formes, les... C'est quelque chose que je trouve très beau, mais j'avoue que je ne saurais pas plus expliquer que ça, ce que je ressens devant, quoi. Ça fait du bien de regarder des plantes et même de se poser un peu parfois devant.
Ah,
Alors, votre prénom, s'il vous plaît.
C'est Camille.
Camille, ouais. Quel âge ?
J'ai 25 ans. Bah, du coup, je suis en CAP fleuriste en alternance. Vu que j'ai toujours été attirée par la nature, les fleurs, le végétal de façon générale, du coup, bah, je me suis orientée vers la fleuristerie et puis le rythme en alternance, ça me convenait bien. Donc, c'est pour ça que je suis fleuriste maintenant.
Et alors là, vous êtes en visite au jardin de Chaumont-sur-Loire. Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte pour le coup ?
Donc déjà, ça permet de les voir en vrai, une grande variété. Donc en fait, ça nous fait des révisions, honnêtement. Et puis, bah, ça nous inspire aussi forcément parce qu'il y a plein de fleurs qu'on peut imaginer dans des compositions ensuite dans nos boutiques ou dans notre propre boutique pour plus tard, évidemment. C'est les révisions et l'inspiration.
La fleur, quels mots vous pourriez mettre sur les sensations que ça provoque en vous ?
Pour moi, c'est de la douceur. C'est rassurant parce que depuis qu'on est tout petit, bah, y a des fleurs dans notre jardin, il y en a partout. Donc ouais, pour moi, c'est d'abord la douceur.
Il y a beaucoup de fleurs qui viennent de l'étranger, ouais. Cultivées dans des conditions pas ouais. Super.
Ouais.
Fleurs françaises, ça vous inspire ?
Bah, moi, si un jour j'ai la chance de pouvoir ouvrir ma propre boutique et pouvoir faire ça effectivement avec la fleur au plus local possible, donc au mieux bretonne parce que je serai en Bretagne, autrement bah, au moins française, et puis bah, si vraiment vraiment il y a besoin, au moins pas trop loin quoi, je sais pas, européenne, j'en sais rien. Mais oui, effectivement, plus c'est local, plus c'est intéressant pour nous quand même, parce que c'est vrai qu'il y a un impact écologique assez important sur la fleuristerie. C'est un domaine pas très écolo malgré le fait qu'on travaille avec les fleurs. Il y a beaucoup de produits chimiques, il y a le coût des transports, il y a beaucoup de pertes aussi, donc il y a du gaspillage. Donc c'est vrai que si on pouvait avoir un métier moins polluant, ce serait quand même plus sympa. Je pense que c'est vraiment le gros point noir de la fleuristerie pour beaucoup de gens de mon âge.
Parler des fleurs, c'est parler aussi bien sûr du business des fleurs. D'une industrie désormais mondialisée où le vivant est réduit à une marchandise. En 2024, le marché mondial des fleurs coupées représentait 27 milliards d'euros, 1,5 milliard rien que pour la France. Mais 85% des fleurs sont importées, des Pays-Bas, du Kenya, d'Éthiopie, d'Israël, d'Équateur, de Colombie et même de Chine. Résultat, un bilan énergétique délirant qui détruit la planète. Chauffage des serres, transport en avion, engrais, pesticides ou encore plastique. Et pourtant, la France ne manque pas de fleurs. Dans les années 70, il y avait même 30 000 fermes florales dans l'Hexagone. Béatrice Duguay est allée se balader dans le Morbihan et à Paris avec celles et ceux qui veulent revenir à un modèle raisonné et raisonnable.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Une technique pour faire le bouquet.
Ouais, en gros, on appelle ça la technique de la vrille. L'idée, c'est qu'à chaque tige qu'on place sur le bouquet, après, on fait un tout petit quart de tour pour tourner autour du centre du bouquet à chaque fois qu'on ajoute une tige, de façon à ce que ça soit harmonieux, qu'il n'y ait pas toutes les tulipes d'un côté, toutes les narcisses de l'autre. Il faut que ce bouquet, il soit comme si on se baladait dans un jardin. Et du coup, on aime beaucoup mélanger les textures, mélanger les formes et mélanger les couleurs. On a un style assez coloré, même si on est capable de travailler en tout blanc, si on nous demande du tout blanc, on l'a déjà fait pour nos clients. Et aussi, on aime travailler de façon plus lâche que peut-être des personnes qui auraient été formées traditionnellement, de façon à donner de la légèreté et de la prise de hauteur dans les bouquets. Je m'appelle Tiffaine Turluche, j'ai 36 ans et je suis la fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Les Bottes d'Anémone, qui se définit comme un fleuriste éco-responsable avec trois piliers importants. Le travail de fleurs françaises uniquement et à 100%, le travail de fleurs de saison uniquement, donc avec des producteurs engagés pour pas faire de forçage de végétaux, donc de serres chauffées, serres éclairées la nuit, etc. Et le troisième volet de notre engagement, c'est le travail dans le zéro déchet, zéro plastique à usage unique et zéro mousse florale. Et voilà, la réserve des merveilles. Donc là, en fait, c'est l'endroit qui est le plus frais de notre atelier. On essaie de ne pas avoir de chambre froide. Et donc, comme on travaille en circuit court et en précommande, on ne fait arriver que la quantité de fleurs qui nous sont commandées. Alors ça, c'est toutes les fleurs qui sont arrivées cet après-midi pour demain matin. Donc elles viennent toutes de Bretagne.
Ça sent bon.
Ouais, ça sent trop bon. Donc là, il y a les giroflées qui ressemblent vraiment à des... Je sais pas, pour moi, c'est un peu comme des glaces, les fameuses glaces à l'italienne. Et donc, il y en a des roses pâles, roses fuchsia, blanches. Là, il y a des anémones. Là-haut, il y a les petites... Nous, on appelle les fleurettes. Donc, c'est des facélies et des myosotis pour la petite touche de magie et de poésie. Et puis là, derrière, c'est des orlaïas qui apportent pas mal de légèreté dans les bouquets en couleur blanche. Il y a 76% de nos fleurs qui ont parcouru moins de 150 km sur une année complète.
Pourquoi vous vous êtes dit « Oui, ça va être les fleurs, mon jardin, voilà, de là à en faire un avenir professionnel ?»
Moi, quand j'étais petite, c'était le décès de la princesse Diana, marée de plastique devant Buckingham. L'an dernier, c'était la reine d'Angleterre, pareil, marée de plastique, qui sert que quelques minutes, qui enrobe tous les bouquets. Et là, en gros, c'était un bouquet de pesticides emballé dans du plastique. Et en fait, c'est ça qui m'a mordu dans le monde de la fleur, c'est de me dire, en fait, là, tu peux essayer de créer un modèle économique différent et un modèle de fonctionnement différent pour voir si tu peux, et c'est ça notre devise, changer le monde de la fleur une tige à la fois.
Est-ce que ça a été difficile de convaincre, à la Saint-Valentin, moi, je n'aurais pas de rose?
À chaque fois qu'on lance quelque chose, il faut expliquer pourquoi on le fait différemment. Par exemple, au tout début des potes d'anémone, quand j'ai dit « je vais créer une entreprise, ce ne sera pas une boutique, et les gens devront précommander leur bouquet », ma belle-mère, la première, m'a dit « mais c'est impossible, c'est trop chiant ton truc, précommander un bouquet alors que c'est un achat compulsif, et en plus, pas choisir ce qu'il va y avoir comme fleur dedans, ça ne va pas marcher, Tiffaine ». Là où on a été aidé par le contexte, c'est que je me suis lancée en août 2020.
Covid ?
Ouais, Covid. 3 mois après, il y a eu le confinement de l'automne. Et en fait, c'était encore une période où il n'y avait pas d'avion. Et comme 9 fleurs sur 10 sont importées par avion, il y avait beaucoup de fleuristes qui ne pouvaient pas bosser. Ils ne recevaient pas leurs fleurs. Et moi, j'avais mes fleurs parce que j'avais des productrices tout autour qui, elles, avaient planté 6 mois plus tôt et au contraire, elles avaient besoin de déboucher. Et ça m'a fait connaître, parce que les gens étaient bloqués chez eux, bah, moi, je pouvais livrer et parce que j'avais des fleurs.
Il y a aussi les bouquets solidaires.
Alors, les bouquets solidaires, c'est né dans les tout premiers mois des bottes d'anémone. C'est une personne qui a voulu rester anonyme, qui m'a dit « Mais moi, je vais te confier un budget et je voudrais que chaque mois... pendant 10 mois, tu offres un bouquet à une personne qui aurait besoin d'un rayon de soleil inattendu dans sa journée. » Et j'ai trouvé ça absolument génial. À la fois, elle soutenait mon projet, mais aussi, elle le rendait utile à quelqu'un qui s'y attendait pas. En fait, j'ai trouvé ça tellement génial que je l'ai partagé à notre communauté sur Instagram et je leur ai demandé de voter et je leur ai partagé à chaque fois que j'allais livrer un bouquet, où j'allais livrer, les réactions des gens, etc. Les gens, à la fin de ces 10 mois, m'ont dit « mais moi aussi, je veux participer. Est-ce qu'on peut pérenniser ton idée ?» Et donc, en fait, c'est un peu devenu à l'image des cafés suspendus dans les cafés. En fait, au moment où on commande un bouquet sur le site des bottes d'anémone, on peut rajouter 2 € à sa commande. Et nous, dès qu'on a assez pour faire 1, 2, 3 bouquets, et on va les livrer. Et du coup, on a livré un jour de Noël tous les gens qui travaillaient à Noël. Je me souviens avoir livré un contrôleur à la sortie d'un train qui continuait vers Rennes après. Il est descendu du train, il a mis son coup de sifflet, je lui ai mis le bouquet dans les mains. Et voilà, on a livré les étudiants qui étaient très isolés pendant les confinements, plusieurs EHPAD. On a livré le service oncologie de l'hôpital de Vannes. Ça a été hyper, hyper fort.
Retour à Paris, précisément à l'entrée de la grande serre tropicale du Jardin des Plantes, au cœur de la capitale. C'est là qu'Hortense Aran nous a donné rendez-vous. Elle a fondé en 2017 Fleurs d'ici, une plateforme commerciale dédiée à la filière des fleurs françaises.
Alors, moi, ici, je ne suis pas tout à fait dans mon élément naturel, puisque chez Fleurs d'ici, justement, toute l'idée, c'est de relocaliser la culture des fleurs en France, et donc de faire des variétés qui sont locales et de saison. Donc ici, c'est quasiment l'antithèse de ce qu'on fait. Et toutes ces plantes, qui sont des plantes tropicales, qui aujourd'hui sont les plantes qui sont dans nos appartements, dans un mécanisme d'industrialisation accessible par tous, pour tout le monde, tout le temps, etc. Et donc, c'est une distorsion, finalement, de la nature.
Et donc, vous avez créé Fleurs d'ici.
C'est quoi votre parcours pour arriver à cette création-là et expliquez-nous ce que c'est, Fleur d'Issy.
Je m'appelle Hortense, ça vous a pas échappé. Hortense, ça vient du latin hortus, qui veut dire jardin. Et sinon, je devais m'appeler Iris. Donc j'ai un grand attrait pour les fleurs par atavisme familial. Et du coup, je me suis intéressée à ce marché parce que je voyais que du 1er janvier au 31 décembre, chez les fleuristes, on voyait le même assortiment où les fleurs étaient cultivées au Kenya, en Colombie, en Équateur, etc. ou en Hollande, dans des serres chauffées, éclairées 24 heures sur 24. Et donc, je me suis dit, mais en fait, quelle est la raison pour laquelle on fait ça? Puisque des fleurs, il y en a en fait en toute saison et partout en France. Mais il s'agit juste de réapprendre à consommer. Et je pense qu'il y a une place pour des fleurs plus naturelles qui varient en fait beaucoup selon les saisons, les variétés. C'est beaucoup plus divers. Et donc il a fallu reconstruire en fait un circuit de distribution entre des horticulteurs locaux, donc des gens qui produisent des fleurs, des fermes florales locales, et des distributeurs, c'est-à-dire des fleuristes locaux. Donc il a fallu recréer effectivement une chaîne de distribution, logistique, etc., pour que les fleurs soient accessibles.
Alors qu'est-ce qu'il y a comme fleurs en France, puisqu'on a dit que les roses du Kenya c'était moyen, est-ce qu'il y a suffisamment de variétés, de couleurs, de fleurs de saison ?
Il y a énormément de variétés, et c'est d'ailleurs la beauté de la fleur locale, c'est qu'elle est parfumée, et généralement plus durable aussi, parce qu'il faut quand même avoir en tête que la fleur qui vient du bout du monde, elle a été cueillie en moyenne 10 jours avant d'arriver chez le fleuriste. Donc le temps qu'elle arrive chez vous, elle a déjà 15 jours de cueil. Alors que la fleur locale, nous ce qu'on propose, c'est des fleurs qui sont coupées 24 heures avant.
Parlez-moi des variétés, puisqu'on disait qu'il y en a beaucoup.
Il y a tout en France. Il y a évidemment la rose qui est la reine des fleurs. Hein. Et il y en a des centaines de variétés, notamment il y en a une qui s'appelle la Piaget, qui est une rose extraordinaire. Vous avez évidemment toutes les fleurs d'hiver, le mimosa, les anémones, les renoncules, les tulipes, etc. Le lilas, le viburnum, toutes ces fleurs qui poussent sur des arbustes en fait, plus qu'au sol. Attendre la saison du lilas, attendre la saison des roses, c'est des choses qui ont du sens et je pense qu'ils contribuent à rythmer notre vie et qui sont aujourd'hui prisés par les consommateurs. Avoir tout le temps la même chose toute l'année, ça n'intéresse personne finalement. Enfin, ça n'intéresse que les industriels. Mais ça ne correspond pas aux attentes des consommateurs.
C'est la fête des fleurs, c'est la fête des fleurs, c'est la fête des fleurs, c'est la fête des fleurs. Agréable fleur, répandez vos parfums, ranimez vos couleurs. C'est la fête.
La fête
fleurs.
Des fleurs.
Stéphane Hugon, je suis sociologue et je dirige un cabinet qui travaille sur la transformation des institutions par la culture.
Vous qui êtes sociologue, est-ce qu'il y a une sociologie de la fleur coupée ?
Bien sûr, il y a une manière plus chic d'acheter. Il y a des fleuristes dans Paris qui font des trucs extraordinaires, qui sont un vrai luxe. D'ailleurs, ça coûte très cher, donc là, il y a quelque chose effectivement de différenciant. Pour autant, c'est le rapport à la nature qui, lui, est une transversalité. C'est-à-dire que jeunes et vieux, riches et pauvres, urbains et ruraux, tout le monde a sa manière de rencontrer la nature. Et je pense que c'est ce qui, au contraire, nous rassemble. Alors, dans notre imaginaire, la fleur est aussi une offrande, hein, parce que c'est quelque chose dont on sait que c'est une éphémérité, ça ne durera pas longtemps, et que ça donne une gravité au moment que l'on partage autour de la fleur. Donc en fait, la fleur est un déclencheur de ce moment partagé. C'est pour ça qu'il y a une espèce de liturgie, en fait, dans cette offrande de la fleur. C'est quelque chose de très beau, en fait. On sait que ça ne durera pas longtemps. Nous qui avons voulu maîtriser un temps lisse, un espace lisse, en réalité, et grâce aux fleurs, on se réinscrit dans un monde, en fait.
C'est un métronome ?
Oui, c'est un métronome, c'est exactement ça. Ça nous restitue une place dans un cycle plus vaste. Tous les autres cycles ayant été désinvestis ou saturés, je sais pas, le cycle politique est compliqué, le cycle spirituel il est chahuté aussi, tous les grands calendriers sont un peu malmenés, mais par contre la nature ne mentant pas, et ça a été repris pour le meilleur et pour le pire, elle nous rappelle qu'il y a une grande computation, comme ça, un rythme qui est là, et qui nous rassure justement, parce que ça permet de retrouver un début, un milieu et une fin, de retrouver une narration de vie en fait.
Est-ce que les fleurs ont un pouvoir ?
Là, je vais faire une petite parenthèse, mais dans ma tradition, on oppose le pouvoir et la puissance, par exemple. Le pouvoir est toujours quelque chose de descendant, et toujours quelque chose qui est de l'ordre de la contrainte. Le pouvoir du père, bien sûr, le pouvoir politique, c'est toujours quelque chose quand même qui vient cadrer, qui vient interdire, qui vient structurer, qui vient obliger. Je crois que s'il existe une influence de la fleur, elle serait plutôt de celle de la puissance. Et la puissance, c'est plutôt quelque chose d'arbustif, très justement, quelque chose qui ouvre des possibilités, quelque chose de moins contraignant peut-être, qui ouvre des possibilités, qui donne à voir, qui donne à ressentir. Donc oui, je pense que les fleurs et les végétaux...
Stimulant presque, hein ?
Oui, stimulant, tout à fait. Voire même dévoilant, révélant, etc. Il y a quelque chose de finalement très orientaliste là-dedans. Il y a une manière de célébrer l'instant pour l'instant. Et donc finalement, c'est la plus belle des démocraties, la fleur. Ça accueille et ça libère et ça offre quelque chose sans retour.
Le pouvoir des fleurs, soigner nos âmes sans abîmer la planète. Un reportage de Béatrice Duguay. Prise de son, Alexandre Martin et Alexandre Abergel. Réalisation, Gaëtan Colli. Mixage, Lucas Derode. Attaché de production, Martine Messonnier.
J'écoute France Inter depuis des années. Je suis hyper touché de vous voir ici. Voilà, Interception, j'ai écouté de nombreuses fois.
C'est incroyable.
Pour réécouter ce reportage et tous ceux d'Interception, abonnez-vous au podcast via l'application Radio France. Bon dimanche et bonne fête évidemment à toutes les mamans, avec des fleurs bien sûr.